Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Justine Vigneault, Laure Broulard et aujourd'hui Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de notre émission. À la une, c'est cette histoire terrible qu'on évoquait avec Vincent Parisot et Christelle Revière juste avant les infos. La petite fille de la plage, on pourrait l'appeler aussi la petite fille du silence, l'expression n'est pas de moi, mais de mon invité Michel Agrapard, qui est psychocriminologue. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Près de vous, Timothée Boutry du Parisien. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est vrai que cette affaire est hors norme. Alors, on a l'habitude de dire une affaire hors du commun, une affaire hors norme. Mais là, on est vraiment dans une histoire qui est très énigmatique. Vous vous souvenez tous, bien sûr, parce que ça a frappé la France entière. On a appris un matin de novembre 2013 que des pêcheurs de crevettes avaient trouvé le cadavre d'une petite fille. On pensait qu'elle avait un an. En fait, elle avait 15 mois, très exactement, abandonnée par sa mère dans la nuit précédente, au bord d'une plage à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, à marée montante. Et cet enfant s'est noyé. Et on a retrouvé non loin du corps la poussette avec laquelle sa mère avait été vue par des caméras de surveillance et dans les jours précédents. C'est ce qui a permis d'ailleurs ensuite de l'identifier. Alors le hors norme et le hors du commun, et ça on va parler quasiment que de cela avec mes invités au cours de l'émission, eh bien c'est que cette femme qui reconnaît les faits, qui les assume, qui exprime du regret, voire des remords, n'arrive pas à expliquer vraiment son geste. Alors, voilà, je ne vais pas être plus bavard que ça. Je voudrais d'abord, Michel Agrapard, je voudrais dire pourquoi on vous a invité. C'est parce que vous avez écrit il y a quelque temps un livre aux éditions Max Milo qui s'intitule « Les femmes fatales, les femmes criminelles vues par les experts ». Donc vous êtes une expert auprès des tribunaux. Vous avez un sentiment général sur cette affaire ?
Alors, sur cette affaire, je ne suis pas nommée expert dossier, heureusement. Oui. D'autre part, je connais évidemment pas le dossier comme le connaissent les experts. Mais c'est vrai qu'on est frappé par deux choses. Premièrement, la froideur de cette femme quand elle exprime les choses et sa froideur même affective envers tout le monde. Et d'autre part, la contradiction qu'il y a entre l'image qu'on dépeint d'elle, d'une femme intelligente, cultivée, elle préparait plus ou moins une thèse de philosophie sans être inscrite, elle était thésarde sans l'aide, quoi. Et puis cette intelligence, cette vie bizarre qu'elle avait, cet enfant qui n'existe pas légalement, qu'elle ne déclare pas, le père qui ne reconnaît pas. Il y a un tas de choses très bizarres, très curieuses, très cachées. Tout est caché dans ce dossier. Tout a une double facette.
Et de la même façon qu'il est toujours très difficile d'expliquer rationnellement un suicide, j'ai l'impression qu'il y a autant d'infanticides, malheureusement, que de personnalités.
J'en ai vu beaucoup des infanticides. Ouais. J'ai eu malheureusement la charge d'expertiser ces femmes. Beaucoup sont des mineurs. Beaucoup sont des mineurs qui sont non pas dans un déni de grossesse parce qu'elles savent qu'elles sont enceintes, mais qui sont dans la dénégation. Elles veulent pas en entendre parler, ça les embête. Et quand le bébé arrive, il est là, il pleure, il crie. En général, il est en bonne santé puisqu'il a échappé à la médecine avant. Il a pas eu tout ce qu'on peut faire à une femme enceinte. Ouais. Et la réalité de cet enfant qui gigote et qui pleure fait qu'elle le tue parce qu'elles l'ont jamais investi au plan affectif. Là, on est dans un tout autre cas de figure puisque cette petite fille avait déjà 15 mois, donc il y a eu déjà une relation, un attachement entre sa mère et elle, et c'est ce qui étonne et c'est ce qui choque.
Ouais. Alors, Timothée Boutry, dans un tout petit instant avec vous, parce que vous connaissez très bien le dossier, vous l'avez suivi depuis le début pour votre journal, Le Parisien aujourd'hui en France. Avant de vous donner la parole, on va simplement se remettre dans l'ambiance de l'époque. On est avec un document RTL, on est 3 jours après la découverte de cet enfant au bord de la plage. Nous sommes le 23 novembre 2013 et on apprend ce jour-là que la police, qui n'avait pas de piste, qui avait avait lancé des appels à témoins en espérant que quelqu'un permette d'identifier cette femme qui avait quand même été vue par un certain nombre de personnes, ben on apprend que la police cette fois a non pas encore identifié cette femme, mais peut accompagner son appel à témoin désormais d'une photo prise sur des caméras de vidéosurveillance. On l'a vu à la gare du Nord, on l'a vu aussi dans la ville de Berck-sur-Mer. On va écouter les explications que, évidemment partielles, trois jours après, que donnait sur l'antenne d'RTL Maxime Wolf.
Quatre jours après avoir retrouvé le corps de cette petite fille âgée d'un an sur la plage de Berck, les enquêteurs étudient une piste sérieuse. Une femme âgée d'une trentaine d'années qui, selon des sources policières, serait originaire des Dom-Tom et aurait séjourné ou habiterait la région parisienne. La photo de l'appel à témoins sur laquelle on la voit avec un enfant de type européen dans une poussette a d'ailleurs été prise à la gare du Nord. Alors actuellement, les enquêteurs de la PJ sont en train de scruter toutes les vidéos des diverses caméras de sécurité des commerces et établissements de Berck sur mer pour tracer le parcours de la jeune femme. Viendra ensuite le moment d'étudier les appels téléphoniques passés dans le secteur, mais les enquêteurs doivent avant affiner les zones de recherche qui pour le moment sont trop vastes. Les questions restent donc en suspens. Comment le corps inanimé de la petite fille s'est retrouvé sur la plage mercredi dernier? Comment expliquer qu'aucune disparition inquiétante n'ait été signalée? Et qui est cette femme recherchée? Est-elle à Berck? Est-elle toujours en vie? Mais surtout, est-elle impliquée dans la noyade de la fillette?
Alors Timothée Boutry, il faudra une dizaine de jours pour pouvoir répondre aux questions que pointait Maxime Wolf dans son papier trois jours après. En fait, l'enquête n'a pas représenté des difficultés insurmontables pour la police.
Non, pas tant que ça, parce que Fabienne Cabou, puisque c'est d'elle dont il s'agit, on va l'apprendre, a laissé beaucoup de traces derrière elle. En fait, elle ne s'est pas cachée. Elle a pris un train à la gare du Nord, énormément de présence policière, des caméras. Elle a pris le train. Après, pour rejoindre la station balnéaire de Berck-sur-Mer, il faut prendre un bus. Elle a acheté des tickets de bus. Ouais. Elle a parlé avec des gens dans le bus. Mmh. Après, elle s'est installée, toujours avec sa fille, dans un hôtel de Berck-sur-Mer. Ouais.
Elle a demandé à des passants si on pouvait lui recommander un hôtel.
Un hôtel, on lui a recommandé un, elle y est allée. Ouais. Elle a donné son nom. Alors, ça n'a pas été inscrit, mais elle a donné son nom, son vrai nom à l'hôtelier. Mmh. Donc, c'est comme ça aussi, ce qui a permis aux policiers de remonter, c'est à partir de cette consonance-là, avec l'enfant. Et elle est repartie le lendemain, elle est refilmée à la gare du Nord, seule, donc elle a laissé beaucoup de petits cailloux derrière elle, en fait. Mmh. Comme si, quelque part, elle avait peut-être envie d'être arrêtée.
Oui. Et enfin, en tout cas, elle n'a pris aucune précaution.
Aucune précaution. Alors, elle ne s'est pas dénoncée, mais en même temps, elle n'a pas fui. Elle est revenue s'installer chez elle, dans cet atelier de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, où elle vivait avec son compagnon. Mmh. Donc, voilà. Et finalement, l'enquête n'a pas été si compliquée à cause de toutes ces traces.
Voilà. Et entre-temps, bien sûr, il y avait un aspect polyscientifique également. Comme on a su qu'elle avait occupé une chambre d'hôtel, on a pu aller confirmer, en fait, ce qu'on savait, c'est que il y avait un lien de parenté entre cette femme qu'on voyait sur les photos et l'enfant qu'on avait retrouvé. C'était bien la mère biologique de l'enfant. Dans un instant, on va en venir avec vous, bien sûr, et avant de donner la parole beaucoup plus longuement à Michel Agrapard, on va simplement vous raconter dans quelles circonstances cette femme a été interpellée, et surtout, la surprise des enquêteurs lorsque elle n'est pas passée d'ailleurs aux aveux tout de suite, enfin lorsqu'elle a complété ses premiers aveux d'une manière qui a stupéfait tout le monde.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, cette affaire qui s'est déroulée il y a un peu moins d'un an, le 20 novembre, aux alentours du 20 novembre 2013, Fabienne Cabou, dont on citait le nom avec Timothée Boutry il y a un instant, avait pris le train à la gare du Nord la veille, le 19 novembre, avec sa fillette de 15 mois, cette poussette qu'on va repérer sur les caméras de vidéosurveillance et qu'on va retrouver abandonnée sur la plage à quelques mètres du corps de cette fillette qui a donc été vraisemblablement déposée à marée montante sur la plage et abandonnée à ce moment-là par sa mère. On verra tout à l'heure comment elle a raconté cette histoire aux policiers. Mais d'abord, l'arrestation de cette femme, donc on le disait il y a un petit instant, 10 jours après, en fait, elle est identifiée, elle est interpellée, elle est placée en garde à vue. On apprend, ça se passe le 29 novembre, hein, très, très exactement, et on apprend qu'elle a été arrêtée chez elle, dans le Val-de-Marne, dans la région parisienne, sur RTL, et on va entendre une partie de ce document. Jean-Alphonse Richard faisait le récit de cette interpellation.
Interpellation qui s'est effectivement déroulée sans heurts hier en milieu d'après-midi dans cette rue tranquille de Saint-Mandé. La jeune femme se trouvait dans l'appartement. Face aux policiers, elle n'a fait aucune difficulté pour décliner son identité. Questionnée sur un enfant qu'elle aurait pu avoir, elle répond alors qu'elle est bien la mère d'une petite fille née en août 2012 et qui se prénommerait Ada. Interrogée à propos de l'absence de la fillette dans l'appartement, la jeune femme explique l'avoir récemment confiée à sa propre mère qui est partie au Sénégal. Des éléments suffisants pour un placement en garde à vue, d'autant plus que physiquement, l'intéressée correspond parfaitement aux images diffusées ces derniers jours. Des captures de vidéosurveillance prises à la gare du Nord à Paris, montrant la mère et l'enfant dans une poussette en route pour Berck le 19 novembre, puis la mère seule le lendemain. À ce moment-là, la petite fille avait déjà été découverte morte sur la plage, sa poussette abandonnée un peu plus loin.
Alors Timothée Boutry, qu'est-ce qu'on a appris dans les jours qui viennent? Maintenant on connaît l'ensemble du dossier que vous suivez pour Le Parisien, je le rappelle. Comment peut-on raconter la vie de cette femme?
Alors, on se retrouve face à un personnage assez hors du commun, effectivement, vous l'avez dit, c'est une expression un peu galvaudée, mais là, vraiment, c'est un personnage d'une affaire criminelle extrêmement différent par son parcours, par son histoire et par les faits qui se sont produits. Alors, Fabienne Cabous est née au Sénégal, à Dakar, la capitale du Sénégal, dans une famille niaisée, une famille catholique, ce qui n'est pas la majorité de... c'est pas la religion majoritaire au Sénégal.
Oui.
Son père travaille pour les Nations Unies, sa mère est secrétaire de direction. Elle fréquente de bons établissements et après son bac, elle part suivre des études en France, à Paris.
Mmh. Et alors, elle va continuer, elle va, mais elle va avoir, comment dire, un cursus un peu chaotique, hein, c'est-à-dire qu'elle va.
Alors d'abord, elle fait des études d'architecture pendant deux ans,
pendant
et puis finalement, elle
s'intéresse à la philosophie.
Elle se lance dans la philosophie.
Ouais. Mais là, elle passe pas toutes les unités de valeur, on va dire.
Oui, c'est pas tout. Il semble qu'il y a certains UV qu'elle n'avait pas validés, mais disons qu'elle était quand même inscrite dans ce cursus-là et qu'elle préparait une thèse. Alors, je crois que techniquement, il y avait encore quelques UV à valider, mais elle était vraiment investie dans
la thèse. Mais les enquêteurs ont retrouvé sur son ordinateur, effectivement, c'est un vrai travail qu'elle était en train de faire. En plus, c'est un travail sur la différence entre la réalité,
La théorie du réel,
La théorie du réel, voilà.
C'est vraiment intéressant. Mais alors, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, dont le QI était mesuré à 130. Ouais. C'est quelqu'un doté d'une éducation très solide et très académique, qui parle extrêmement bien le français dans un langage châtié, avec des formules de politesse très développées. C'est vraiment un profil très particulier.
Voilà. Et apprécié par tout le monde, hein. Tous ceux qui ont témoigné, qui l'ont approché, disent qu'elle était quand même réservée, mais enfin que c'était une femme.
Disons qu'elle avait il semble qu'elle avait une position importante dans sa famille, qu'elle était un peu une sage, qu'on faisait appel à elle pour régler les conflits, un rôle de médiateur.
Oui.
Après, alors c'est une dimension importante de cette histoire, une vie sociale qui était sans doute pas très développée non plus et qui s'est progressivement éteinte au cours de cette grossesse. Et c'est une des particularités de cette histoire, c'est qu'elle s'est vraiment renfermée sur elle-même, c'est les témoignages qui le disent, à partir du moment où elle est tombée enceinte jusqu'à la naissance et la vie quasi clandestine de cette petite fille.
Alors, il faut parler du père biologique de l'enfant, c'est-à-dire elle a rencontré, elle était mariée, je me souviens plus.
C'était son compagnon
Qui est un Français ayant passé de nombreuses années en Afrique, hein, je crois.
Oui, qui était
passé.
Exactement, qui était cadre.
Voilà, et qui est devenu sculpteur sur bois, à Saint-Mandé, je crois.
Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui a, j'étais en train de calculer, mais je crois 23 ans de plus qu'elle à peu près.
Oui.
Ça doit être ça, pas très loin. Donc ils n'étaient pas mariés, lui-même avait déjà eu des enfants d'un premier mariage. Et voilà, donc il vivait dans un atelier de Saint-Mandé. Et en fait, c'était plutôt lui qui s'en occupait un petit peu, enfin qui la promenait au parc. C'était lui qui la promenait. Elle s'occupait beaucoup des tâches au domicile. Mais après, il y a cette particularité que cette petite fille n'était pas déclaré n'avait pas d'existence légale.
Voilà. Alors évidemment, il a été longuement interrogé par la police judiciaire et il a raconté une histoire qu'on va revisiter ensemble dans quelques minutes avec Michel Grimpart. Mais là, on essaye d'être complet. Il aurait dit aux policiers, je crois que le Parisien s'était procuré plus ou moins une partie du dossier. Je crois que vous l'avez écrit, on peut le dire. On a découvert à ce moment-là que cet homme disait bah oui mais quand elle a accouché à la maison elle m'a pas dit et puis ensuite j'ai pensé qu'elle l'avait déclaré l'enfant quand j'ai dit que je voulais la reconnaître elle a dit c'est à moi et quand elle revient de Berck sans son enfant elle lui dit qu'elle l'a confié à sa mère qui va l'élever en Afrique et que c'est prévu comme ça. Ils vont, détail terrible, porter les jouets de l'enfant chez Emmaüs, quoi. Voilà. Donc voilà le tableau. Vous comprenez mieux pourquoi on parle d'une affaire hors du commun depuis tout à l'heure. Une pause et ensuite la parole à notre psychocriminologue Michel Grimpart.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous parlons de cette affaire absolument hors norme de cette femme Fabienne Cabou. On est avec Timothée Boutry, journaliste au Parisien, Michel Grimpart, qui est psychocriminologue. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire au début, mais nous aurons en ligne le docteur Rachid Benegadi, qui lui est psychiatre et anthropologue, parce que il semble, mais on va vérifier, on va parler de tout ça avec lui. Et avec vous, Michel Grimpart, il semble que peut-être le fait que cette femme soit d'origine africaine, donc là c'est pas ethnique, c'est culturel, a pu jouer peut-être un rôle, puisque on a appris récemment qu'elle s'était dite, en tout cas dans ses interrogatoires, peut-être sentie envoûtée et qu'elle aurait donc agi dans un état de conscience modifié. Alors tout ça, évidemment, on n'est ni policier, ni juge, ni expert psychiatre, mais on en parle d'abord avec vous. D'abord, mais en oubliant peut-être ce côté ethnopsychiatrique tout de suite.
Oui, pour lequel je ne suis pas du tout compétente.
Oui, ça je savais. C'est pour
tout
ça qu'on
fait.
A demandé
tout
au docteur Guénédi d'être là.
Et d'autre part, c'est vrai que cette dimension culturelle est très souvent évoquée dans un dossier criminel, de même que les antécédents de maltraitance infantile. C'est pas le cas ici du tout, mais c'est vrai qu'ils sont systématiquement jetés en pâture aux experts, comme si c'était une excuse atténuante.
Alors maintenant, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour bien raconter tout ça. Voilà, une femme que Timothée le disait, jugée comme intelligente, ouverte, bon, etc. Cet enfant n'a pas été maltraité. À l'autopsie, on a cherché tout de suite. Il n'y a aucune maltraitance physique. Mais il y a une situation tout à fait exceptionnelle. Un enfant
tout à fait, parce que cet enfant
déclaré,
n'existe
quoi.
Pas. Cet enfant
pas, en
n'existe
fait.
Pas légalement. Elle n'est déclarée ni par sa mère, ni par son père. Elle n'est inscrite nulle part. Même la grand-mère maternelle qui vit en Espagne ne sait pas que sa fille a eu un bébé. Mmh. Je veux dire, c'est très curieux. Mais on a l'impression que cette personne n'a aucun ancrage avec la réalité administrative. J'ai vu qu'elle faisait une thèse sur le réel, mais elle n'est pas inscrite comme Thésarde. Elle fait un enfant, elle le déclare pas. Et puis, le tout est doublé d'une sorte de presque d'anesthésie affective. Elle fait un voyage qui est assez long pour aller tuer son enfant.
Je vous interromps, on lui a demandé, bien sûr, pourquoi Berck-sur-Mer.
Elle a dit que c'était le nom qui était triste, voilà. Etc.
Elle
c'est quand même
pas,
une préméditation qui est longue, qui est construite, qu'elle a élaborée de longue date. Mais effectivement, notre amie journaliste le disait tout à l'heure, elle ne fait absolument aucun effort pour se dissimuler, pour se cacher. Au contraire, elle s'en fiche, elle ne laisse pas volontairement des indices, mais elle vit comme de manière normale et naturelle, laissant fatalement beaucoup de choses derrière elle.
Oui.
Voilà, alors une sorte absolument
en fait,
d'anesthésie.
Cet enfant existe le jour de sa mort, quoi. Cet enfant
voilà,
existe.
Voilà, cet enfant existe. Je crois que localement, ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu des associations, le maire a essayé de donner une sépulture. Enfin, elle a eu une espèce de reconnaissance. Oui. Elle a peut-être été déclarée. Oui. Elle a peut-être une identité au moment de sa mort. Je t'avais vu dans un autre dossier aussi un enfant qui avait été enterré à sa naissance. Oui. Et ensuite, il y a eu une reconnaissance des parents. C'est très curieux, cette négation. Oui. Mais il n'y a pas de déni de la grossesse chez elle. Il y a peut-être une négation, le savait-elle, mais il y a une dénégation de la réalité de cet enfant. Dénégation non pas biologique, mais sociale, administrative, etc. C'est un comportement très bizarre, très curieux. C'est une femme très intelligente, cultivée, diplômée, mais avec un comportement pour le moins étrange. Elle peut être très intelligente, mais elle a quand même vraisemblablement, je suis presque certaine, que les psychiatres vont trouver des difficultés et des problèmes identificatoires et certainement une atténuation de ses facultés de discernement, vraisemblablement. C'est pas une femme qui se droguait, c'est pas une femme qui buvait, elle avait pas de médicaments, donc c'est très très étonnant.
Et vous, Timothée Boutry, vous avez rencontré ou en tout cas contacté son avocate qui porte le même prénom qu'elle d'ailleurs, et puis aussi je crois l'avocate de Michel, son compagnon.
Oui, j'ai contacté pas mal de monde, même les avocats. Je me suis entretenu brièvement avec le père biologique de l'enfant, qui s'appelle Michel, avec sa fille à lui, née d'une première union, et effectivement tout le monde est stupéfait. C'est vraiment stupéfaction. Et lui-même, le papa de l'enfant disait, c'était une mère magnifique. C'était le premier mot qui lui sont venus. Alors que, il était quand même effaré. Alors, effectivement, il a été très passif dans la gestion de cet enfant. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort que cette petite Adélaïde a été aimée par sa mère et par son père. Et que, voilà, lui-même, sa première réaction de dire, c'est une mère magnifique. Donc, l'incompréhension aussi, quoi. Mais l'incompréhension aussi de découvrir qu'elle n'avait pas été déclarée et que personne ne le savait aussi, ça.
Mais c'est très curieux parce que, si je ne me trompe pas, on lui donne le qualificatif de bonne mère. On dit, c'était pas une mauvaise mère, sauf qu'elle a tué son enfant. Il y a quand même une certaine contradiction.
C'est sûr.
Et avant de le tuer, elle l'allaite.
Oui.
Elle l'allait encore avant de la noyer. Ça allait dans l'ambivalence, dans la contradiction, dans cette espèce d'anesthésie affective qui signe quand même des troubles psychiques.
Alors, là, pour l'instant, il n'y a pas encore de date de procès, mais on peut imaginer que ce procès va intervenir dans l'année prochaine, non, Timothée Boutry?
Oui, à peu près, oui.
Parce que, voilà, l'enquête est bouclée.
Oui, techniquement, c'est pas une instruction très compliquée. Voilà.
Hein,
simple, il y a une accusée qui reconnaît les faits. Par contre, vraiment, la vraie énigme, l'enjeu, c'est de comprendre.
Voilà,
comprendre.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs collèges d'experts psychiatres qui sont très nombreux, finalement, puisque on a aussi contacté un certain nombre de vos confrères, et un certain nombre d'entre eux sont actuellement, ne peuvent pas parler du dossier. Alors, Michel Agrapard, comment ça va se passer au procès? La tâche des juges et des jurés, il va y avoir des jurés.
Elle est terrible.
Ça va se passer en cour d'assises.
Elle est terrible. La tâche du président, de ses assesseurs et des jurés, c'était vraiment une tâche terrible, puisqu'ils vont en fait décider de l'avenir de cette femme, et non pas à partir des faits, parce qu'ils sont connus, il n'y a pas d'ambiguïté, mais à partir des expertises. Et souvent, je dis qu'on accorde aux experts beaucoup trop d'importance par rapport au poids qu'ils ont dans un procès. En l'occurrence, tout va se jouer sur les expertises. Et si le magistrat instructeur a demandé des compléments d'expertise ou des contre-expertises par rapport au premier dossier, c'est que lui-même, je ne sais pas qui c'est, lui-même a des doutes et lui-même a besoin d'un éclairage. Un expert, il est là pour éclairer la cour, point barre, c'est tout. Hein.
Il n'est pas là au-delà. Pour juger, bien sûr.
Non, pas du tout. Mais là, il va y avoir quand même des... Peut-être pas des querelles, parce qu'on se connaît tous et qu'on ne se querelle pas aux assises, c'est rarissime. Mais il va y avoir des difficultés. Voilà. D'autre part, cette femme, la première fois qu'elle a été expertisée, elle a vraisemblablement eu un discours. Et ensuite, elle a eu un discours évoluant vers l'emprise magique, le vaudou et tout. Et c'est là où les expertises vont être différentes, puisqu'elle-même aura changé. Mais elle va être persuadée de ce qu'elle dit. Quand les gens affirment quelque chose, au bout d'un certain temps, Leur auto-persuasion est plus forte que la réalité des faits.
Alors, vous restez avec nous, évidemment. Dans un petit instant, justement, on va aborder cet aspect-là, transculturel, on va dire. On va en parler avec le docteur Rachid Benegadi, qui est psychiatre, anthropologue, vice-président de la Ligue française pour la santé mentale et spécialiste de ces questions transculturelles que d'autres appellent ethno-psychiatrie. Et on entendra aussi un document RTL, c'est quelques mots de l'avocate de cette femme qui elle-même est face, et elle le confirme, à une énigme.
L'heure du crime sur RTL.
L'origine africaine de cette femme a-t-il joué un rôle dans ce drame? C'est ce qu'on peut être amené à penser, Timothée Boutry, mais sur la base d'un certain nombre de déclarations de cette femme que je voudrais que vous rappeliez avant qu'on demande son avis au docteur Rachid Benegadi.
C'est notamment les premiers experts en fait qui en parlent. Alors les experts se basent sur les déclarations de la personne qu'ils ont expertisée. Donc voilà. Mais disons que la première expertise conclut à l'altération du discernement de Madame Kabou, c'est-à-dire que elle n'avait pas toutes ses facultés mentales, mais elle était quand même responsable de ses actes. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il ne diagnostique pas de pathologie mentale. Donc en général, mais Madame Agrapard nous le dira, on fait le lien entre une maladie et les conséquences que ça a. Là non. Et ils émettent comme hypothèse le fait qu'elle puisse être sous influence culturelle et cette histoire de sort qui est évoquée sur la base de ses déclarations.
Alors, elle, ça ce qui est curieux, justement, oui.
Alors, c'est ce qu'elle dit, et ce qui est curieux, c'est aussi le sentiment naturel du père de Adélaïde, qui lui-même a habité en Afrique et évoque la divinité Mayuwata, qui est une divinité qui est en lien avec l'eau. Alors, disons que c'est son sentiment à lui. Voilà, et c'est aussi ce que elle dit face aux experts et qu'ils retiennent. Alors peut-être que les prochains experts seront pas forcément de cet avis-là, mais en tout cas ça a été écrit noir sur blanc par le premier collège d'expertise.
Ouais, c'est ça, c'est ce personnage de Mayuwata dont vous en avez parlé dans un encadré dans un article du Parisien. C'est à la fois une divinité qu'on retrouve dans la religion vaudou, mais qu'on retrouve aussi dans les religions animistes qui sont très très largement implantées évidemment en Afrique. En même temps, c'est la déesse de l'eau. Et son royaume, c'est la mer. Alors, maintenant, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais donner la parole tout de suite à un spécialiste. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour, monsieur Pradel.
Docteur Rachid Benegadi, qu'est-ce que vous pensez? Je vous pose que des questions ouvertes, parce que je sais que vous êtes habitué, évidemment, par votre pratique professionnelle, à affronter des affaires où on se pose ce genre de questions.
Alors, tout d'abord, les affronter, y être confronté, pas en tant qu'expert, mais en tant que clinicien et thérapeute.
Oui.
Effectivement, au centre Minkowska où je travaille, on a quand même toutes les populations migrantes et réfugiées qui viennent nous consulter. Donc, on a eu une certaine expérience clinique de l'expression culturelle de certaines pathologies. Ouais. Mais pour ne pas plonger dans le culturel tout de suite, si vous m'y autorisez,
oui,
j'ai trois remarques à faire. La première, je suis tout à fait dans le sillage de ma collègue, de mes collègues psychologues et psychocriminologes. Il y a effectivement, quand on les entend parler, tel que vous présentez les choses et tel que j'ai compulsé les dossiers que votre assistante m'a envoyé, il y a une dissonance cognitive ou affective. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Les compétences cognitives, rationnelles de cette personne et le monde de l'émotion, ça, c'est vraiment en filigrane, on l'entend partout. Et un élément essentiel que vous avez aussi lancé, mais que je voudrais préciser un peu plus, c'est cet enfant pour cette femme est arrivé à un moment et un lieu où il n'avait pas sa place. Elle s'était créée son propre monde, son propre système. Et ça, effectivement, nous le voyons souvent. Chez les patients qui viennent nous consulter pour X raisons. Encore une fois, là, nous sommes sur quelque chose de dramatique, avec derrière du médico-légal et une expertise psychiatrique qui dira la réalité de tout ça, mais c'est quand elle dit c'est mon objet de son enfant, mais c'est qu'il n'a jamais eu de place comme sujet. C'est la société qui, plus tard, lui donnera, reconnaîtra son passage dans la vie à ce bébé. Mais pour cette maman, qu'elle soit une bonne mère ou que... Peu importe, c'est pas le problème. Il n'a jamais été véritablement... Elle ne l'a jamais... Elle ne s'est jamais sentie attachée à lui. Pourtant, elle avait l'air aimante, mais elle était dans son rôle.
Oui. Ah.
pas de spéculation plus que ça, c'est ce que j'ai cru comprendre et entendre. Alors, là où vous voulez quand même que je vous apporte mon expérience et mon expertise, c'est sur l'expression culturelle. Mmh. Alors là, nous avons quand même une sorte de clarification à faire. C'est vrai qu'une approche ethno-psychiatrique ou transculturelle, on peut l'appeler comme on veut, du moment qu'on comprend, et ça c'est central, et je pense que les experts vont vraiment utiliser cette information, et j'en connais beaucoup qui l'utilisent déjà, il y a quelque chose qu'il faut entendre tout de suite. L'expression culturelle, la déesse de l'eau, etc., les origines, l'univers...
Le sort, l'envoûtement, le sens...
Voilà, oui. Tout ça, ce sont des expressions culturelles d'une souffrance psychique. C'est véritable ce qu'elle dit, parce qu'elle le pense.
Oui, pardonnez-moi docteur, ça veut dire que c'est sous cette forme-là que cette femme tente d'expliquer, ou peut expliquer ce qu'elle ressent, ou les troubles qu'elle a.
Exactement. Pour elle, elle a été formatée sur une information, une manière d'être, de dire, de souffrir. Et d'ailleurs, elle peut mélanger les deux, puisqu'au début, elle a utilisé des formulations tout à fait qu'on entend dans le discours psychiatrique en France. Et là, elle est en train de passer naturellement et normalement à ce qui est pour elle une tentative d'expliquer les choses par une expression culturelle, mais qui n'est pas, et j'insiste, une étiologie.
C'est quoi une étiologie? Excusez-moi, expliquez-moi une étiologie. Ça veut dire quoi?
Ça n'est pas la cause.
D'accord.
On ne peut pas dire que la culture est à la cause de.
Voilà, d'accord.
Elle est un habillage de la souffrance, comme on le voit dans le monde entier.
Ouais.
Nous avons des patients et des patientes dans des situations moins dramatiques, mais qui ont une expression, un habillage de leur manière d'avoir appris comment on explique la souffrance psychique.
Ouais.
C'est tout à fait à entendre, mais, et c'est là aussi le deuxième élément qui me paraît essentiel, et je vous apporte cette contribution de façon la plus claire. Il y a le travail que fera l'expert en face.
Alors, on va en parler dans un petit instant. Docteur, si vous pouvez rester en ligne avec nous, là, on a une pause qui s'annonce, et ensuite, on reviendra à vous, mais si j'ai bien compris, parce que c'est très clair ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'en tant que psychiatre, lorsque vous recevez quelqu'un qui manifeste des troubles, et que cette personne attribue ses troubles à un envoûtement, un djinn, un esprit, etc.
Oui, je les entends.
Vous les entendez.
Et
ça ne veut pas dire que...
Et je les confronte à mes propres, à ma propre formation.
D'accord.
Et derrière ça, il y a une personne.
D'accord.
Et il y a une personnalité, et c'est le boulot qu'on fait.
D'accord. Eh ben, écoutez, on vous retrouve dans quelques instants, pour compléter ces explications.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on se retrouve avec les invités de l'heure du crime, Timothée Boutry du Parisien Aujourd'hui en France, qui a suivi ce dossier incroyable dont on parle depuis tout à l'heure, Michel Agrapard, qui avait publié ce livre chez Max Milo sur ces femmes criminelles au contact des experts, et on comprend en vous lisant et en vous écoutant aujourd'hui, vous aviez intitulé votre livre « Femme fatale », hein, je crois, la difficulté à la fois pour les professionnels de la psychiatrie, mais la difficulté aussi pour toute la chaîne judiciaire, les avocats, comment défendre une femme comme celle-là. D'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure qu'on entendrait l'avocate de Fabienne Cabou. On va l'écouter tout de suite. C'est un document qui date du 1er décembre 2013. Hein, donc on est au tout début.
Juste après les faits.
Voilà, juste après les faits. Et tout le monde se pose cette question, comment une femme intelligente, une mère aimante a pu commettre un tel crime. Et vous allez entendre que son avocate, Fabienne Roy-Nancion, tentait une première explication sur RTL, mais avec beaucoup, beaucoup d'interrogations, dans le journal de Charlotte Arrigoni et de Bernard Poirette.
Une femme qui, avec tout le paradoxe que cela peut représenter, dit avoir aimé profondément sa fille, qui analyse son geste, qui tente de l'analyser, qui est intelligente, qui est même particulièrement intelligente et même extrêmement cultivée, qui s'exprime très très bien. Une femme qui, je crois, dans un moment de détresse, d'isolement, de solitude absolue, est passée à l'acte. On assume au plan matériel et on doit aussi assumer un enfant au plan psychologique. Au plan matériel, c'était compliqué, au plan psychologique, c'est tout le débat. Elle ne cherche pas à se trouver des excuses et au contraire, elle dit n'être pas défendable.
Ça, c'était en décembre 2013 et depuis est intervenue cette hypothèse autour de laquelle on est en train de... Enfin, c'est pas une hypothèse, d'ailleurs, c'est un élément de ce qu'elle dit lorsqu'on lui demande d'expliquer ce qu'elle a fait, où elle dit, je suis allé sur cette plage, il y avait la lune, un peu comme si j'étais obligé d'y aller, etc. Et on peut interpréter ça comme si elle se sentait elle-même victime d'un envoûtement. Alors, je reviens à vous, docteur Rachid Benegadi, donc vous êtes psychiatre, anthropologue, vous exercez au centre Françoise Minkowska à Paris, dans le 17e arrondissement, un centre médico-psychosocial pour migrants et réfugiés. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué très clairement que, en fait, votre pratique vous conduit à prendre en compte les explications que donnent les patients, mais ça n'est pas pour ça. Si quelqu'un vous dit « je suis envoûté, j'ai fait ça parce que je suis envoûté », ça ne prouve pas que l'envoûtement existe, hein, si j'ose dire.
Écoutez, mon travail, mon métier, celui auquel on m'a formé comme professionnel et auquel sont formés mes collègues psychiatres, psychologues et psychanalystes, c'est d'entendre un certain nombre de choses et de les contextualiser. Si nous ne contextualisons pas, nous n'avons pas accès à la personne derrière qui s'exprime de cette manière. C'est une manière de dire, voilà comment je souffre, quand vous avez été...
C'est pas forcément une fuite.
Non, ça n'est ni un alibi, ni une fuite, ni un camouflage. Vous le saurez après. Quand vous avez un entretien avec quelqu'un et que vous voyez à quoi ça sert tout ça, vous voyez exactement la structure de sa personnalité. Et à partir de là, nous sommes habilités à savoir s'il y a un trouble grave de la personnalité. D'ailleurs, ma collègue avait ouvert une très bonne piste. Je suis d'accord un peu avec elle sur l'idée de la dénégation, sur le fait qu'il y a une sorte de... complètement inhibition totale affective, etc. Enfin, tout ça aurait dû un petit peu mettre la puce à l'oreille à pas mal de gens, mais bon, elle a réussi avec sa technique et son système à donner le change. Elle avait une très grande souffrance psychique. Maintenant, les experts qui vont la voir feront le détail. Et d'autant plus, je vous le dis, parce que c'est important, c'est pas uniquement contextuel ce que je dis, l'OMS est en train de modifier la classification des maladies mentales. Vous savez que c'est utile pour les experts. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas parler de seulement à partir de ce que l'on pense, mais à partir de références. Est en train d'y ajouter des éléments culturels et contextuels comme des éléments qui participent à l'expression de la maladie mentale. Donc une fois pour toutes, il est important, en France, nous sommes des pionniers, et nous sommes en train de le dire un peu partout, mais ça s'entend facilement, la référence culturelle est capitale à entendre. Mais ça n'est pas seulement cela qui fait le diagnostic. Voilà ce que je voulais vous passer comme message.
Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, docteur, de cet éclairage. Tout dernier mot, il nous reste quelques secondes. Michel Agrapard, ça veut dire, on prend en compte tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que devant une cour d'assises, ça peut constituer,
un éclairage,
circonstances
au moins,
atténuantes ou
tout à fait,
non.
Tout à fait, ça peut effectivement apporter des informations nouvelles, un éclairage différent, et peut-être aussi un petit peu apporter une dimension compassionnelle chez les jurés qui vont de ce fait demander une sanction moins importante. Moins importante, c'est possible.
Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu nous donner votre avis sur ce cas quand même exceptionnel. Merci beaucoup Timothée Boutry. Vous allez continuer bien sûr à suivre ce dossier comme nous, hein, et on avertira tout le monde quand on saura si le procès a lieu. On peut déjà dire que quand il aura lieu, en tout cas, il sera très très suivi. Merci à tous, l'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand après les infos, et dans quelques secondes, on va parler de l'émission de demain.